Bienvenue dans le News and Analysis Show de Entreprendre dans la mode, le talk show dans lequel je vous offre chaque semaine, accompagné d'un invité, une synthèse de ce qu'il ne fallait pas rater cette semaine dans le monde de la mode.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le News and Analysis de Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui, et comme tous les mois, avec Viviane Lipskier. Vous le savez tous, mais elle est la fondatrice de Brand Alchemy. Elle est l'expert DNVB en France et accompagne les marques à repenser leur business model dans l'économie directe to consumer. Elle est l'auteur des DNVB, les surdoués du commerce digital. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tu reviens sur tes premiers amours. Tu as passé 20 ans, peut-être que les gens ne le savent pas, mais tu as passé 20 ans dans les médias radio et télé. Et aujourd'hui, en fait, on va parler de médias, mais des médias offline. Et surtout, comment les DNVB les exploitent ?
Exactement. Bonjour Adrien. Oui, bonjour, on revient Liliane. À un sujet effectivement d'actualité. Mm-hmm. Effectivement, les digital native vertical brand direct to consumer, plus largement, utilisent la télé et la radio en plus des campagnes d'affichage régulièrement et de plus en plus massivement. Et c'est un vrai sujet d'actualité.
Très bien. Je coupe mon téléphone. C'était moi qui faisais du bruit. Excusez-moi. Pourquoi tu as eu envie de parler de ce sujet en particulier aujourd'hui et qu'est-ce qui se passe dans l'actualité en fait qui fait que tu avais envie de parler de ça?
Alors écoute, il y a eu une grosse étude aux États-Unis qui est sortie le 19 juin, donc c'est tout récent, du VAB, Video Advertising Bureau. C'est un groupe de professionnels qui représente les grands réseaux de télévision et de distributeurs américains et qui a révélé que les marques direct to consumer, dont les DNVB font partie bien sûr, ont augmenté de 60% leurs dépenses en médias télé pour atteindre 3,8 milliards de dollars en 2018 par rapport à l'année précédente. Autant te dire qu'elles ont complètement reboosté les achats médias TV.
Ça me semble considérable comme montant. Est-ce que c'est rentable pour une direct to consumer brand ou une DNVB, la pub télé?
Alors justement, le VAB a examiné 125 marques parmi 52 catégories de produits direct to consumer et à mesurer les interactions numériques, le trafic sur le site web et les revenus des ventes. Et ce qu'a révélé ce rapport, par exemple, c'est que Peloton, tu vois qui c'est Peloton ?
Ouais, je vois très bien.
Ouais, le game changer dans le marché du fitness, cyclisme, etc., qui fait des cours de fitness par vidéo streaming et puis il te laisse un vélo à la maison, a plus que doublé son chiffre d'affaires à 700 millions de dollars après avoir augmenté ses dépenses de télé de 48% pour atteindre 161 millions de dollars l'année dernière. Donc c'est évidemment un des budgets les plus élevés hein, pour une DNVB en expansion, ouais. Qui a été identifié par VAB. Mais il y a aussi Uber, par exemple, dans les marques direct to consumer, ou Warby Parker, dans les digital native vertical brand, qui sont très très bien classés parmi les marques en expansion et qui ont stimulé les dépenses de télé. Et parmi ces 125 direct to consumer, 5 qui achetaient le moins de pubs télé et qui achetaient pour la première fois cette année ont vu leurs revenus augmenter de 25% à 8%. Donc oui, on peut dire que ça vaut le coup.
Ça fonctionne, ouais. Donc c'est une vraie manne pour les diffuseurs alors.
Ah, carrément. Et à tel point que ce même VAB, ce même bureau, a mené sa propre campagne publicitaire à la télé pour mettre en avant les direct to consumer qui ont dynamisé leur activité en faisant de la pub à la télé. Et par exemple, on a vu des spots avec John Foley, le fondateur et PDG de Peloton, ou avec Jerry Hum, qui est le cofondateur et PDG de Touch of Modern, qui est, on va dire, l'équivalent de notre bonne gueule en France. Et selon le VIB, Touch of Modern a fait passer ses dépenses publicitaires télévisées de 852 000 dollars en 2017 à presque 34 millions de dollars en 2018. Mmh. Et son chiffre d'affaires a augmenté de 33%. Donc, l'augmentation de 33 millions de dollars des dépenses publicitaires à la télé a contribué à une augmentation de 50 millions de dollars de son chiffre d'affaires.
Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Je comprends pas là. Tu m'as toujours dit que les DNVB, elles communiquaient que sur le digital et ça générait elles généraient leur croissance par le bouche à oreille. Qu'est-ce qui se passe là?
Oui, c'est vrai, t'as raison, j'ai toujours dit ça. Et c'est vrai que, en fait, s'il y a bien quelque chose qui évolue aussi vite que les DNVB, c'est le marché média. On va le voir tout de suite. Mmh. En fait, quand tu crées une DNVB, tu vends uniquement en ligne et sur mobile. Donc, les canaux numériques et la pub en ligne, ça fait partie intégrante de ton ADN. Ouais. Et comme beaucoup d'autres startups, tu testes n'importe quel canal en ligne sous le soleil avant même de regarder dans la direction du marketing qu'on appelle offline. Hors ligne. Mais ce qui se passe, ce qui est en fait, et c'est vrai d'ailleurs, que la pub sur Facebook. Alors je dis Facebook parce que Facebook et Instagram, c'est le même média en fait du point de vue régie, a largement contribué à la croissance rapide des premières DNVB et des marques direct to consumer qui sont nées avant 2014. 2014, c'est vraiment une année de bascule. Au cours de leurs premières années d'exploitation, toutes les autres plateformes de publicité en ligne combinées n'ont pas contribué à la croissance de l'entreprise de la même façon que Facebook à elle toute seule. Il n'y avait pas encore et début Instagram. Mais depuis quelques années, Facebook favorise une bulle insoutenable qui éloigne de plus en plus les pros du marketing digital et en particulier les direct to consumer. Dans une DNVB, les premiers investissements sont consacrés aux produits et ça laisse des budgets vraiment restreints pour alimenter la croissance. À l'ère pré-Facebook, sans budget pour la pub à la télé, dans les journaux ou à la radio, elles n'auraient eu aucun moyen réalisable d'obtenir une exposition de qualité à grande échelle et pendant des années. Et donc, franchement, Facebook, on peut dire que ça a changé le cours de leur destin et que c'était révolutionnaire.
Et la pub sur Facebook, c'est né quand exactement? Tu peux nous le rappeler?
Oui, bien sûr. Alors, excellente question. C'est vrai qu'on a du mal à s'en souvenir. La première pub sur Facebook, ça a apparu au mois d'avril 2004. Ouais. Donc, le réseau date seulement du mois de février 2004. Et à l'époque, c'était que les étudiants de 4 universités américaines qui avaient accès à The Facebook. À l'origine, les publicités Facebook, ça s'appelait les flyers. C'était très simple, il s'agissait d'une bannière verticale et les annonceurs locaux pouvaient louer cet espace pendant une journée et cibler des étudiants d'un campus en particulier. Prix d'entrée en 2004, entre 10 et 40 dollars quotidien. Donc Facebook, c'était vraiment très disruptif. Et il y avait 3 points forts. D'abord, c'était une des seules plateformes qui permettait de mesurer précisément les résultats en temps réel, ce que la télé permettait pas de faire, ni la radio à l'époque. Et ça permettait aux startups de faire ce qu'elles savent le mieux faire, c'est-à-dire être agiles. Ouais. Deuxièmement, Facebook offrait un niveau supérieur de ciblage. Si tu veux annoncer seulement aux femmes âgées de 20 à 23 ans qui vivent à Minneapolis avec un revenu annuel de 40 000 dollars et qui conduisent une Mini Cooper et qui écoutent Kendrick Lamar, tu peux le faire.
Trop bien.
Troisièmement, et plus important encore, la combinaison de résultats mesurables en temps réel et d'un ciblage supérieur a permis à de nombreuses startups de passer rapidement à l'échelle supérieure. Et les millions de dollars dépensés sur Facebook ont financé des croissances hyper rapides. Exemple, Adormi. Tu te souviens d'Adormi, cette DNVB qui a été fondée par un Français d'ailleurs, qui avait dit qu'il voulait en fait créer une marque qui soit Je fais des ailes pendant pour qu'Adrien devine de quoi je parle. Victoria's Secret.
Ah, okay.
Tu vois, en termes de qualité, en termes d'accès, moins cher. Oui, c'est de la lingerie. Et aujourd'hui, c'est un concurrent très, très, très sérieux d'ailleurs. Et l'idée, c'était de combattre le stéréotype, en fait, cette femme très stéréotypée.
L'objectisation de
la femme. Exactement, exactement. Et en fait, Adormi est vraiment une start-up tech et ils mesurent tout. C'est une start-up d'ingé. Ils ont l'obsession de la mesure.
Et du retour sur investissement, du
exactement,
ROI.
Ouais. Exactement, donc ils testent tout, ils abétestent tout. Et donc, Adormi, en 2014, ils ont dit qu'ils avaient dépensé plus de 10 millions de dollars depuis leur création, c'est-à-dire depuis 4 ans, en marketing en ligne, mais ça leur a permis de catapulter l'entreprise et d'être valorisé en 2014, pas de valoriser d'ailleurs, mais de faire plus d'un million de bénéfices. Donc évidemment, ils étaient loin d'être les seuls et la plupart des startups ont bien alimenté leur croissance et la croissance de Facebook en même temps. Ouais. Voilà. Bien sûr, les entreprises traditionnelles n'ont pas tardé à suivre l'exemple des startups et à détourner aussi une bonne partie de leur budget vers Facebook.
Et pour quelles raisons?
Y a une multitude de bonnes raisons à ça. Il y a d'abord l'effet de mode. On voulait être là où les startups étaient. Et puis les médias online, pour la promesse de ciblage précis que n'offrait pas encore le offline à l'époque. La qualité aussi des bannières a commencé à augmenter et a laissé place à des vidéos. Tu te souviens, les premières bannières sur l'Internet, c'était juste insupportable. Et puis Instagram, bien sûr, qui a permis de mettre en place des belles images à destination de communautés précises. Mais le problème, c'est que ces entreprises n'avaient pas connaissance de la publicité en ligne. Et puis, elles passaient par des agences. Et en fait, elles ont fini par importer la culture de l'ancien monde sur la plateforme, sur Facebook. Par exemple, à la fin de chaque trimestre, ça, c'est un truc vraiment archi classique dans une boîte
média.
Les gros acteurs traditionnels se débarrassent de leur fin de budget, tu vois, toujours toutes les queues de budget. Et donc, ils se débarrassaient effectivement de leur budget inutilisé sur Facebook. Et du coup, ça gonflait artificiellement le prix. Si bien que juste pour en 2014, le coût par clic, donc c'est la mesure en fait utilisée pour sur Facebook, chaque fois que quelqu'un clique sur une bannière, etc., on peut le mesurer, ça a augmenté de 180% juste en un trimestre, du début à la fin du premier trimestre. Et du coup, c'est devenu, on peut dire que n'importe quel jour de l'année est devenu comparable au prix de la Saint-Valentin. Et puis pour couronner le tout, toutes les entreprises bombardaient tous les consommateurs en même temps sans raison valable. Du coup, les taux de conversion ont baissé. Mmh. Et puis non seulement les annonceurs ont commencé à payer plus cher, mais en plus, bah, ils obtenaient moins fatalement. Et voilà, des dépenses irrationnelles à leur summum. Et donc les mêmes cultures qui ont contribué à rendre obsolètes les plateformes publicitaires de l'ancien monde, bah, c'est devenu la norme sur Facebook. Voilà, c'est comme si je te disais, pense à toute entreprise dont le client principal serait Uber, et puis du jour au lendemain, c'est BMW ou Orange. Bah, c'est ce qui arrivait à Facebook du jour au lendemain. Et cette anomalie a perduré jusqu'à aujourd'hui. Hein. C'est pas un fait de l'année 2014, mais ça s'est même aggravé. Ouais. Et les annonceurs traditionnels, qui sont devenus les plus gros utilisateurs, du coup, ont contribué de plus en plus à la croissance de Facebook. Ben, le pire, c'est surtout qu'ils payent pour un service dont ils n'ont pas spécialement besoin. En tout cas, à cette époque-là, ils n'en avaient pas spécialement besoin, c'est-à-dire une capacité de ciblage qu'on appelle granulaire.
D'accord. Tu peux nous expliquer un peu plus ce point ?
Oui, le côté granulaire, c'est que Facebook offre un ciblage qui est supérieur, on vient de le voir. Mmh. Mais si, évidemment, si tu es dans une entreprise de niche, tu en as besoin. Mais sinon, ça a des limites. Imagine que tu veuilles vendre un pot de caviar à 10 000 dollars qui se livre que dans l'Upper East Side de Manhattan. Évidemment que tu veux un ciblage granulaire sur Facebook. Mais si tu cibles un grand groupe de consommateurs et que tu es une marque de grande consommation, c'est ce que cherchaient à l'époque ces grandes marques, tu veux cibler un marché de masse. Bah, en fait, si tu as la possibilité de cibler un quartier, une école primaire ou le livre préféré, tu n'as pas vraiment des raisons commerciales de le faire. Tu vois, c'est vraiment un outil qui était à l'époque disproportionnée. Bon, c'est vrai que maintenant, les grandes marques ont développé de nouvelles stratégies. Elles savent qu'elles peuvent aller chercher maintenant sur ces médias-là des cibles qu'elles n'atteignaient pas alors. Que évidemment, elles ont compris la possibilité et l'idée, ce qu'on pouvait faire de la collecte de data. Et d'ailleurs, ont suivi le développement de ce qu'on appelle les DMP, les Data Platform Management, qui est les aspirateurs à data. Et puis, évidemment, c'est moins cher, plus efficace de confier des budgets que de confier ces budgets à une agence qui va faire l'achat média via des régies d'achat. Parce que dans l'ancien système, ça se passait comme ça. Tu confies, enfin, toujours d'ailleurs, tu passes quand tu es une marque traditionnelle. Tu passes par une agence de pub, tu lui confies ton budget d'achat et elle-même va faire l'acquisition des différents espaces via une régie. Donc ça fait deux intermédiaires. Tout ça est complètement transparent et régulé par la loi Sapin. Mais ça veut dire que tu as quand même des intermédiaires. Et puis, on utilise les outils traditionnels, c'est-à-dire les études quantitatives, qui mesurent l'impact d'efficacité sur le vente, et qualitatives, des enquêtes d'image et perception d'image. Et encore, ça fait encore un florilège d'intervenants. Évidemment que sur le digital, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as ton information en temps réel. Mmh. Et donc, c'est pour ça. C'est parce qu'il y a des prix très élevés, un retour sur investissement en baisse, que les DNVB les plus matures et les plus agiles ont commencé à fuir vers l'espace de publicité offline, donc traditionnel, et vers les campagnes télévisées en particulier, mais aussi vers l'affichage sauvage. Hein. Il n'y a qu'à voir dans les rues, ne serait-ce qu'à Paris aujourd'hui, ouais, la énorme. Plupart de l'affichage, c'est des DNVB. Je voyais en arrivant MVT, les montres, c'est vraiment incroyable. Et aussi d'ailleurs vers les boutiques physiques, on en reparlera peut-être, ça fera l'objet d'un autre sujet, puisqu'on pose pas mal de questions là-dessus, qu'elles considèrent les boutiques physiques comme un outil marketing, c'est-à-dire un gigantesque billboard, pour parler langage publicitaire, c'est-à-dire une pub ciblée en gros. Et c'est comme ça que Adormi, mais aussi Birchbox, qui n'est pas une DNVB, mais une Direct to Consumer, Dollar Chef Club, Bubble Bar, sont entrés à la télévision. Et le plus souvent, il faut le dire, aux dépens de Facebook. Par exemple, Adormi a lancé sa première campagne télé sur MTV, Bravo et Lifetime, et bien d'autres réseaux d'ailleurs, en 2014.
D'accord. Et j'imagine que les startups restent des tout petits poissons dans la gigantesque mer de Facebook, non ?
Oui, et super image, Adrien, en effet, c'est exactement ça. Mais ce qu'il faut ajouter en plus, c'est également que le prix du référencement Google, lui aussi, il a augmenté pendant tout ce temps. Ouais. Il n'a pas cessé d'augmenter et que Facebook et Instagram sont venus des espaces de plus en plus compétitifs, de plus en plus rudes partout dans le monde. Mmh. Et avec cette bascule donc du off vers le on de tous les acteurs traditionnels. La chasse est devenue de plus en plus complexe, de plus en plus coûteux, que ce soit sur Instagram ou Google, et que évidemment, ces acteurs préfèrent favoriser les grosses marques à gros budget plutôt que les petits acteurs qui bousculent le marché.
Ouais, bien sûr. Mais alors pourquoi les DNVB, elles n'ont pas fait de pub sur la télé beaucoup plus tôt ?
Excellente question. Évidemment, toutes les startups hésitaient, hein, pas que les DNVB, mais c'est vrai que, tu vois, elles ont l'obsession de la data et de l'analytique. Mmh. Et l'obsession aussi de pouvoir tester les contenus. On avait parlé de l'A-B testing, c'est-à-dire de pouvoir soumettre au public plusieurs contenus différents et de garder que celui qui est le plus performant, ce qu'on peut très bien faire sur le digital. Elles craignaient qu'en télé, ça puisse pas se faire, ou en tout cas, ce sera beaucoup plus compliqué. Mais tu vois, de l'étude VAB dont j'ai parlé tout au début, ce qui ressort, c'est en tout cas, ce que j'en ai retenu, c'est le témoignage de Jerry Hum, donc qui est le cofondateur, encore une fois, de Touch of Modern. Et il dit, l'idée fausse courante est que la télévision ne peut pas être suivie de la même manière que la publicité numérique. Très rapidement, dit-il, nous avons constaté que nous étions en mesure de le suivre et de mesurer aussi précisément que nous pouvions sur le plan numérique. Tous les KPI sont donc les ROI sont également améliorés. Le coût par client a diminué, le coût par inscription a diminué. La télévision a fini par représenter la plus grande partie de nos dépenses marketing. Donc du coup, c'est vrai que la télévision est devenue beaucoup plus attrayante pour les spécialistes du marketing. Ouais. Et qu'elles peuvent tout à fait suivre l'impact des dépenses publicitaires aujourd'hui. Mmh. Et en plus, il y a de nouveaux acteurs, des fournisseurs de mesures comme Conversion Logic ou TV Squared, qui peuvent suivre les données des deuxième et troisième écrans et mesurer, donc deuxième, troisième écran, mobile, tablette, etc. Et mesurer si une personne est sur son téléphone, sa tablette, pendant qu'elle regarde la télévision. Alors, ce qu'il faut expliquer aussi, c'est qu'en parallèle, donc, la TV a aussi entamé, enfin, même tous les acteurs traditionnels, donc ce qu'on appelle le offline, ont entamé leur mutation. Tu vois, la presse écrite a commencé sa bascule digitale il y a une bonne dizaine d'années. Et tous ceux qui sont capables de délivrer des contenus ou du divertissement, comme 20 minutes par exemple, ont basculé complètement au digital. Mmh. Et puis certains titres, comme par exemple le Washington Post, ils sont de plus en plus capables d'offrir des espaces de pub ciblés et personnalisés.
Bien sûr.
Par exemple, si tu vois, tu cherches à cibler un mec, enfin à faire une pub sur une voiture par exemple, bah, tu peux tout à fait très bien le faire via le Washington Post. Et donc, on devrait voir les partenariats se multiplier à nouveau dans les années à venir sur la presse, un retour sur la presse. Mm-hmm. Et puis, la télé aussi est en train de basculer vers ce qu'on appelle la publicité TV adressée ou adressable. C'est-à-dire donc des campagnes de publicité TV qui sont ciblées et éventuellement personnalisées en fonction du profil et des datas disponibles pour chaque individu exposé.
Oula.
Ouais. Donc, tu peux, comme tu le faisais avec Facebook, tu vas pouvoir le faire, tu peux le faire désormais avec la télé. Pourquoi ? Bah parce que maintenant, la plupart des gens utilisent une box. Donc, une box, c'est une adresse IP. Ouais. Une adresse IP, c'est la même chose.
En fonction, ils sont capables d'analyser ce que tu regardes.
Bien sûr, ça s'appelle une voie de retour. Donc, là, les médias ont à nouveau une voie de retour. Donc, dans le contexte français, pour des raisons légales, la pub adressée, ça peut être pas encore possible dans le cadre de la télé linéaire. Donc, la télé linéaire, c'est la télé traditionnelle.
C'était TF1, voilà. M6.
Alors, oui, mais pas via la box. Tu vois, quand tu regardes, voilà. Mais seulement en catch-up, ce qu'on appelle en catch-up TV. Bah, attention, parce que d'ici 2021, la loi va changer. Il y a un projet de loi sur la géolocalisation. Tout ça devrait changer. Donc, c'est vite, hein, 21, c'est d'ici même pas 2 ans. Donc, c'est donc les fournisseurs de contenu, là, via la box, qui offrent cette voie de retour. Et donc, la voie IP, hein, la même adresse IP. Tu t'abonnes. Et les gens, les opérateurs savent exactement, effectivement, ce que tu regardes.
À quel moment.
Donc, c'est Orange, MyCanal, MyTF1, etc. C'est la télé se délinéarise. Et comme les gens regardent de plus en plus en replay, bah, on a de plus en plus de sources d'informations. Et même si t'es une famille, tu vois, bah, l'adresse IP, ça sera l'adresse de la famille. Mais on est quand même capable, parce qu'il y a des algorithmes derrière qui vont reconstruire des profils. Mmh. Donc, on est capable de savoir si, à quel moment, c'est la maman ou c'est le fils qui regarde. Alors, en revanche, puisque c'est une adresse IP, toute cette data, toute cette information, à ton avis, elle va où ?
Aux States.
Exactement. Elle retourne chez Google et Facebook qui vont nous la revendre parce que ce sont les meilleurs. Elle peut aller chez IBM aussi.
Ah, ils sont forts.
Qui est aussi très, très fort. Mais en gros, elle va quand même chez Google et Facebook. Bon, parenthèse. Donc, la télé peut à nouveau qualifier. Hein, quand on a une cible, on peut qualifier ses audiences. Et plus elle se délinéarise, Et plus on pourra envoyer des publicités ciblées, je ne sais pas, un homme dans la Creuse passionné de toning dans le flux publicitaire, on pourra remplacer une pub par une autre. D'ici 2-3 ans, tu auras un tunnel de pub complètement personnalisé. Mmh. Et puis donc, tu as basculé d'un schéma avec cette télé hertzienne où tu arrosais tout le monde en même temps à un schéma où tu vas pouvoir atteindre une cible en gardant l'avantage de pouvoir parler quand même à un très grand nombre de personnes en même temps, parce que c'est quand même un changement d'échelle, même par rapport à Facebook. C'est quand même des audiences en millions de téléspectateurs en une fois. Par rapport aux 10 millions de personnes sur Internet en une fois, même les budgets de télé restent imbattables.
Mmh. Ouais, c'est incroyable. Mais entre parenthèses, sur le podcast, cette semaine, j'ai rencontré Spotify. Et ils sont capables de nous donner aussi les informations de qu'est-ce que nos auditeurs écoutent.
Oui, on est tracé. Hein.
C'est incroyable. On est capable de sortir, je sais pas, les 10 titres les plus écoutés des gens qui écoutent Entreprendre dans la mode sur Spotify, bien sûr. Hein. Ça reste encore tout petit par rapport à l'audience. Mais alors, ils peuvent pas nous dire exactement qui écoute, parce qu'en France, légalement, on n'a pas le droit de le savoir. Même si j'aimerais beaucoup savoir. mais en tout cas, voilà, c'est fou, quoi. Tu te dis, bientôt, on aura vraiment de l'information qui sera très, très, très fine.
Très fine, oui. On va savoir à peu près tout sur toi. Et je pense que là, il faut vraiment être méticuleux, justement, en tant que marque, qu'est-ce qu'on fait de ces datas, à qui on les donne et qu'est-ce qu'on donne en contrepartie. Surtout, je pense que c'est important, de plus on collecte de data, plus on doit offrir de services et d'expériences supérieures aux gens en contrepartie, tu vois, prendre la data, sachant que de toute façon, elle sera exploitée, pas par toi, mais par ailleurs.
Et est-ce que c'est la même chose en radio? Est-ce qu'il y a cette finesse aussi?
Oui, tu sais, en radio, ça fait longtemps qu'il y a ce qu'on appelle les décrochages régionaux. Tu sais, si tu es sur une radio nationale, tu peux avoir à certains moments, donc tu as un journal par exemple à un moment, puis ensuite tu rebascules de manière régionale. Mais il y avait pas la voie de retour. Et pareil, aujourd'hui, tous ceux qui sont ce qu'on appelle les digital savvy, ils écoutent plus la radio sur une radio, ils écoutent en podcast, ben justement, tu vois, sur Spotify ou Deezer, ou sur leur smartphone, tablette. Et à partir du moment où ils sont connectés, ben il y a une voie de retour qui profite à nouveau à Apple, Google, Facebook, IBM, ou dès que t'es connecté en Wi-Fi au réseau global, ben là, oui, là, à ce moment-là, il y a des possibilités, effectivement. Et Google, c'est surtout Google qui va aspirer ta data et puis la revendre et te donner. Et d'un autre côté, tu vas bénéficier aussi justement d'une finesse dans parce que toi, tu cherches ce genre d'infos, donc tu l'achètes. Donc,
Non, mais après, ce qui est cool, c'est qu'ils te poussent des contenus qui sont que t'aimes bien. Ils choisissent la musique pour toi. Alors, je sais pas si c'est bien, c'est pas bien, mais en tout cas, c'est quand même assez fou. Même aujourd'hui, chez Spotify, parce qu'ils nous expliquaient ça, c'est que demain, ils seront capables de pousser les émissions qui seront plus susceptibles de te plaire, les voix qui seront plus susceptibles de te plaire en podcast, etc. C'est que la machine et l'algorithme et la data te permettent d'être beaucoup plus... Enfin, le service est beaucoup plus agréable, quoi. Et...
C'est sûr, ça rend service au consommateur d'un côté, puisque ça lui facilite, mais en même temps, je pense qu'il y a tout l'aspect... recherche. On aime bien rechercher, l'esprit humain est curieux et aime bien rechercher, et c'est en cherchant qu'on va chercher des choses différentes. Là, ce qu'on te propose, c'est bien souvent, c'est des choses qui te ressemblent, qui sont déjà justement dans ton portrait type. Et c'est un petit peu comme on va jamais dire que c'était mieux avant, la joie d'aller chercher dans un dictionnaire, c'est quand même intéressant, versus le fait d'aller chercher directement un mot dans Wikipédia, tu vois, il y a le côté circulation. Et là, en plus, l'algorithme te proposera toujours un petit peu soit ce qui te ressemble, soit ce qui te ressemble à tes amis. Donc, ce qui est bien, ce serait de pouvoir s'échapper de temps en temps, quand on le souhaite, et aller soi-même explorer les pistes. Parce que tu vois, Netflix, c'est compliqué d'aller explorer, de faire du hors-piste.
Ouais, c'est vrai, c'est hyper
par
compliqué.
Par exemple,
Et si je suis une jeune marque et que je veux acheter de l'espace, est-ce que c'est une bonne idée de le faire en offline? Typiquement, prenons mon cas. et je fais comment, surtout?
Alors, la question de la pertinence. Alors, j'ai envie de te dire que si tu veux aller en télé, c'est un arbitrage, bien sûr. Plus ton produit est ce qu'on appelle FMCG, donc Fast Moving Consumer Goods, donc des biens qui sont utiles dans la vie courante, matelas, lentilles, lunettes, valises, etc., qui sont susceptibles d'avoir une large audience et qui ont déjà été adoptés sur le marché, qui sont déjà trendy. Bah déjà, là, même dans ce cas-là, il faut déjà analyser au cas par cas. Il faut vraiment avoir atteint un seuil critique. Donc, dans le cas d'une jeune marque, je dirais non. ça reprend quand même des budgets assez considérables. Ouais, par exemple, tu vois, en France, il y a encore pas beaucoup de DNVB qui sont annonceurs sur en télé. Il y a le Slip français, par exemple, qui fait des pubs assez traditionnelles d'ailleurs en télé sur les plutôt sur les produits que sur l'univers de marque. Mmh. Et ils ont fait un investissement presque de 3 millions quand même l'année dernière en budget télé, très bien réparti d'ailleurs entre la télé classique historique, la TNT et le CAB-SAT. Mmh. Et puis il y a le champion, tu veux savoir, le champion des NVB françaises, c'est Teddy Bear. Un gros budget, hein. 6,3 millions.
Ah ouais,
donc tu vois, donc ça te donne quand même une idée.
Mais versus en chiffre d'affaires, c'est quoi?
Parce que alors, tu vois, par exemple... tu sais que c'est le grand secret, le chiffre d'affaires. Hein,
Non, mais par exemple, le site français, on sait que j'ai interviewé il n'y a pas longtemps Frédéric Bius, il parlait de 29 millions d'euros.
Okay, donc on peut faire la statistique.
Ouais, exactement.
Je pense que donc tu peux faire la bac. Ouais.
3 millions sur 29 millions. Moi, c'était un peu moins, je pense, en 2018, ouais. Mais.
Ça reste très belle opportunité.
Ouais.
Oui, ça reste une très belle opportunité, effectivement. Et c'est pour ça que les entreprises direct to consumer augmentent leurs dépenses de télé à mesure qu'elles arrivent plutôt à maturité, tu vois, ouais. Et qu'elles, quand elles font face à une concurrence accrue, ce qui est le cas de Teddy Bear, hein, parce qu'ils sont les seuls Français, mais le marché est quand même bien. Aujourd'hui, il y a quand même Casper en face. Bah, tiens, pour te donner une idée, donc face aux 6 millions de Teddy Bear, Casper en France, Casper, c'est la DNVB américaine de matelas, 2,8 millions. Mais eux, ils ont ce budget qui est réparti dans le monde, enfin qui est démultiplié dans le monde entier. Teddy Bear, c'est qu'en France. Donc ça donne une idée quand même de la hauteur de l'investissement. Donc c'est soit parce qu'il y a une concurrence accrue, soit parce qu'elles veulent générer du trafic via les canaux digitaux en ligne, soit parce que justement elles veulent commencer leur prochaine phase de croissance. Et vraiment, on peut dire que c'est vraiment dans un changement de modèle vers du plus classique.
Alors, non, et puis c'est quand elles ont passé à une phase, elles ont déjà levé beaucoup d'argent, etc.
Exactement,
elles sont,
exactement.
Sont stratégie, et elles puis, sont déjà matures, bon, quoi, sont en accélération méchante, quoi.
Ouais, clairement. Et puis je pense que quand tu y vas, il faut déjà s'appuyer sur une narration établie, avoir des relations profondes avec déjà des clients.
Ouais.
Toutes ces DNVB dont on parle là, donc je te dis, en France, ça concerne Horace, Casper, Teddy Bear et le Slip français, en gros, hein, j'ai fait des recherches, j'ai pas trouvé d'autres qui investissent encore en télé. Il y en a peut-être d'autres dans ces cas-là.
Horace a investi en télé?
Oui, bien sûr, ils ont fait une campagne cette année, petite 200 000 euros. Et c'est plutôt je serais pas sûre, je pense qu'ils ont juste fait de l'affichage Horace cette année.
Ouais.
Mais bon, je pense que c'est les prochains qui pourront succéder d'aller en TV. Mais en fait, toutes celles dont on parle, elles ont déjà construit un récit dans l'esprit des consommateurs et ils les connaissent déjà grâce à l'alimentation sociale, donc il y a un très bon report. Voilà, il faut, et puis encore une fois, il faut vraiment rentrer avec une histoire et une raison d'être particulière, sinon tu ne vas pas émerger. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ces marques qui sont sur les médias télé, elles ont déjà ce qu'on appelle l'acceptation des consommateurs. Tu vois, il y a eu un sondage qui a montré que environ 2/3, 64% pour être précis, des internautes déclarent que 20% en plus de leurs achats totaux seront effectués sur les marques direct to consumer les 5 premières années. C'est un sondage YouGov. En fait, c'est vraiment l'idée que c'est un entonnoir, en fait, et qui va amener les gens du tradi au web.
Ouais.
Donc, si ton web est pas déjà bien construit, si ton online est pas déjà bien construit, bah, il y aura pas d'efficacité, en fait. Mais ceci dit, il y a eu aussi une étude de Telaria qui a montré que les clients direct to consumer étaient réceptifs aux publicités, donc en streaming et aussi donc en linéaire. Alors concrètement, le marché de la pub change tu me demandais comment on faisait. Hein, bah, concrètement, comme Uber, le marché de la pub se désintermédie. Il avait déjà changé en Angleterre et maintenant, bah, les fournisseurs de contenu au sens large vendent directement leurs espaces aux annonceurs comme Facebook l'a fait. Donc en France, par exemple, TF1 a lancé en avril dernier la box entreprise qui te permet d'acheter directement avec ta carte bleue avec un engagement de diffusion, c'est-à-dire un coût pour toucher un contact, et ça te permet donc d'arbitrer. Cette box entreprise cible les petits annonceurs, les PME, les startups, sans agence média. Et de leur côté, ça leur permet de diversifier leurs offres. Et là, d'ailleurs, la patronne a dit les annonceurs qui n'ont pas recours à une agence média peuvent simuler directement sur la box entreprise leur plan média, budget, cible, période, et acheter le même avec leur publicité. La porte d'entrée, 5 000 euros. sur TF1. Donc, c'est la possibilité de construire simplement et rapidement un plan média avec un maillage local ou national, des offres sur mesure. L'annonceur, donc toi, dans 2 ans, quand tu auras bien lancé ta marque, qui s'appelle comment déjà ?
Réunis.
Qui t'aura lancé Réunis ? Tout le monde est au courant que Adrien lance Réunis incessamment et le soutien.
Autopromo. Ouais.
Et ben, tu rentreras ta feuille de route et ton budget, ta période, et puis l'algorithme va te proposer un plan média optimisé pour répondre à tes objectifs. Il sera encore plus fin. Peut-être que tu pourras même tester des budgets encore inférieurs dans 2 ans. Et donc voilà, etc. C'est vraiment très très simple.
Mais pour être tout à fait pragmatique, les contenus, ça reste quand même hyper cher. Est-ce que c'est abordable pour une jeune marque ?
Ouais, super bonne question. C'est vrai qu'à part la data, c'était vraiment l'autre frein, le coût des contenus. Et de toute façon, aujourd'hui, la majorité de la pub se fait via la vidéo, même sur Instagram. Ouais. Franchement, la communication sans vidéo, ça marche pas. Le coût de la création, avant, ça passait forcément par une agence de publicité. Mais enfin, aujourd'hui, on peut faire de la pub vidéo de gamme en qualité 4K chez soi quasiment.
Ouais, c'est clair.
Voilà. Et en plus, sur les plateformes box des annonceurs, donc comme celle de TF1, il y a une proposition d'accompagnement. Il y a une cellule dédiée qui est mise en place pour t'aider à mettre ton contenu aux normes. Et c'est gratuit. Et d'ailleurs, c'est tout leur intérêt. Mmh. La régie accompagne tous les nouveaux annonceurs en mettant en ligne des tutos vidéo. Donc depuis le premier trimestre 2019, c'est possible de te lancer vraiment, voilà, tu mets ta carte bleue et t'es accompagné sur ton contenu. Voilà. Donc pour conclure aujourd'hui, je pense qu'effectivement, il ne faudra pas longtemps avant que la télévision devienne une autre flèche dans le carquois des direct-to-consumers et des DNVB et qu'elle vienne redistribuer les cartes du marché des médias comme elles l'ont fait pour le retail physique. Voilà, on voit que l'histoire bascule d'une grande domination de Google à Facebook, mais qu'en plus, de ces petits chaos, il y a aussi des lobbies puissants, en particulier des lobbies politiques, et que les médias traditionnels ont toujours été l'instrument du politique. Toujours, le politique s'est servi de la télé traditionnelle pour passer ses infos. C'est vraiment un porte-voix. Et tu vois, tu peux avoir un Trump qui s'agite sur Twitter. Ces messages sont toujours très limités en termes de portée. Donc, je pense que voilà, la télé est en train de retrouver son nouveau modèle économique. Et peut-être que ça sera en partie grâce à ces nouveaux annonceurs que sont les direct to consumer.
Excellent. Bah écoute, merci infiniment Viviane, c'était encore un sujet passionnant qu'on a traité ensemble. Il fait très très chaud, on est en pleine canicule.
Ah, il fait très très chaud aujourd'hui.
On est tous moites, mais c'est ça qui est bon. Bon mois, je te souhaite un
bonne
très
canicule,
bon mois.
Ouais.
Bonne canicule, et puis est-ce qu'on se voit au mois de...
Ah, on se voit au mois de juillet, au mois d'août, on change rien.
On change rien, on le fera peut-être rien. Par téléphone, on verra.
Voilà, on verra. En tout cas, on vous accompagne tout l'été, on bouge pas.
On est toujours là.
Salut Adrien.
Sur la plage. Salut, bye bye. Ciao.
Merci d'avoir écouté le News and Analysis Show de Entreprendre dans la mode. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser un message aux invités directement sur leurs réseaux sociaux pour les remercier de leurs bons conseils et de leur générosité. C'est très important pour montrer que Entreprendre dans la mode est vraiment écouté. Tout aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcasts ou iTunes, 5 étoiles de préférence, car ça permet à Entreprendre dans la mode de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Et surtout, ça me motive à faire de meilleures interviews. Enfin, pour ne rien rater de l'actualité de Entreprendre dans la mode, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Entreprendre dans la mode. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode.